Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et il est aujourd'hui question dans les enjeux internationaux des Philippines, le régime et ses oppositions. C'est avec la chercheuse à l'Asia Centre à l'IFRI et maître de conférence à Sciences Po Paris, Sophie Boisseau-Durocher. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Émilie Chudet et bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On avait déjà parlé des Philippines, il faut réévoquer ce dossier. Alors aux Philippines, évidemment, compte tenu de la personnalité du président, de ses déclarations, de ses décisions, de ses méthodes, il y a peu de chances que la situation s'améliore. La lutte contre les trafiquants de drogue et contre la corruption débouche sur une grande violence incontrôlée. Le président Duterte, a été élu en mai dernier. Il est en fonction depuis juin. Il a promis d'éliminer des milliers de trafiquants de drogue présumés, s'est vanté d'avoir lui-même tué des criminels présumés pour donner l'exemple à la police. Il y a une justice expéditive, des exécutions extrajudiciaires. Les Nations Unies, les États-Unis, l'Union Européenne ont évidemment condamné cette situation tragique. Et la question qui se pose, Sophie Boisseau-Durocher, au fond, c'est de savoir quelles sont les capacités de résistance de la société philippine et comment la contestation peut ou non s'exprimer. Alors, d'où vient-on quand même depuis un an, quoi, mai-juin?
Alors, depuis un an, on est dans une situation qui devient sérieusement grave. On estime qu'il y a aujourd'hui 8000 victimes de cette lutte contre les trafiquants et la criminalité, et surtout une élimination qui est tout à fait arbitraire et qui est menée parfois par des forces de police très zélées qui, sous couvert de mener une lutte contre les trafiquants, mènent également une lutte contre la petite délinquance ou même contre l'opposition politique.
Est-ce qu'on peut parler d'escadron de la mort sur le modèle, on va dire, latino-américain ?
Ah oui, absolument. Et c'est d'ailleurs très dangereux, c'est-à-dire qu'on a des milices privées, vous savez, les Philippines regorgent de milices privées qui, aujourd'hui, font la loi. Et donc, il y a véritablement un climat de peur, un climat d'angoisse qui s'exprime aujourd'hui dans le pays. Mais plus grave, c'est que l'État lui-même semble entretenir ce climat de peur et on note depuis quelques mois toute une série de décisions qui sont en train d'être validées par les institutions et qui pourraient effectivement donner au président les pleins pouvoirs dans ce climat qui est quand même un climat d'angoisse générale.
Et avec un arrière-fond de pré-guerre civile, c'est-à-dire qu'on fait se battre des Philippins contre des Philippins.
Absolument, un climat certainement très clivant et qui précisément génère aujourd'hui une vraie résistance de la part de la population. Ce qui génère vraiment cette résistance, c'est pas tellement d'ailleurs le combat contre la drogue et contre les criminels, c'est véritablement les pouvoirs exorbitants que le président est en train de s'octroyer au nom de la lutte contre les trafiquants. Alors, quels sont ses pouvoirs ? En janvier, il a évoqué la menace de rétablir la loi martiale. Hein. Or, la loi martiale, c'est quand même lié à la période Marcos, une période noire de la lutte contre les communistes, où précisément au nom de la lutte contre les communistes, toutes les exactions et les excès ont été possibles. Puis, l'opposition politique, a été muselée. Hein. On a vu en février une sénatrice qui dénoncer les agissements du président, être arrêtée et accusée précisément d'avoir organisé elle-même un trafic de drogue alors qu'elle était ministre de la Justice sous Benigno Aquino. Il s'agit de la sénatrice Leila de Lima. Et puis, en février 17 également, on a vu la tentative de passer un projet de loi pour abaisser la majorité pénale à 9 ans.
À 9 ans.
À 9 ans, donc vraiment n'importe quoi. Le report potentiel des élections municipales d'octobre 17, sous prétexte que 40% des maires seraient des narcotrafiquants, le président voudrait lui-même nommer 42 000 maires. Et puis enfin, le retour de la peine de mort avec une proposition de loi qui pour l'instant est passée à la Chambre des représentants et qui devrait éventuellement passer au Sénat.
Rappelez-nous, Sophie Boisseau-Durocher, en mai, lorsqu'il a été élu, est-ce qu'il a été bien élu? Et si mes souvenirs sont bons, il est avocat de formation.
Voilà, alors il est avocat de formation, il n'a pas beaucoup exercé. Il a été maire de Davao, la grande ville au sud du pays, à Mindanao, pendant 20 ans, pendant 22 ans exactement. Donc en fait, c'est véritablement cette fonction-là qui l'a hissé, je dirais, comme héros national, puisqu'il s'était donné comme mission de nettoyer la ville de tous les trafiquants et de tous les criminels. Ce qu'il a réussi à nouveau du fait de certains abus. Il a prétendu lui-même d'ailleurs avoir jeté d'un hélicoptère des opposants et des trafiquants.
Alors Sophie Boisseau-Durocher, d'où peuvent venir les résistances? Et je vois qu'au début de la semaine, il y a eu un avocat philippin, c'est une forme de courage ahurissant, qui a déposé auprès de la Cour pénale internationale de La Haye un dossier accusant le président d'avoir causé la mort de 8000 personnes dans sa guerre contre la drogue. On n'aurait pas été à sa place à Manille, s'il habite Manille.
Oui, alors effectivement, lui-même risque maintenant sa peau parce qu'on est à nouveau, on est véritablement dans un climat désinhibé de violence politique. Donc ça, c'est très grave. Alors, d'où peut venir la résistance? Le premier, je pense, foyer de résistance organisé, parce qu'elle a déjà organisé une résistance contre Marcos, puis contre le président Estrada et sa corruption, c'est l'Église. Et ça, c'est véritablement important. L'Église a été le fer de lance de la loi pour l'abolition de la peine de mort au début des années 2000, qui a effectivement mené à l'abolition en 2006. Et aujourd'hui, le fait que le président souhaite rétablir cette peine de mort a sorti, je dirais, des églises, les prêtres, les communautés religieuses, pour entraîner un mouvement de résistance nationale. Il y a eu une grande manifestation à Manille en février 2017, 50 000 personnes étaient là, et surtout, il y a un processus d'alerte, les exactions menées au nom de la lutte contre la drogue et de la criminalité ne sont pas normales, elles sont extrajudiciaires. Il faut donc s'organiser pour non pas accuser le président directement, mais accuser l'État qui procède à ces exécutions. Donc véritablement freiner le mouvement. Premier foyer de résistance. Second foyer de résistance, les médias, qui ne sont pas du tout à la solde du président. Donc ça, c'est également un point important. Troisième foyer de résistance, l'armée. Les exactions sont en fait menées par la police. L'armée, pour l'instant, a refusé d'entrer dans le combat contre les trafiquants. Donc il n'est pas impossible que l'armée puisse organiser une forme de résistance violente ou passive. Et puis, dernier foyer de résistance, le monde politique, précisément. Vous en avez parlé, il y a des avocats qui résistent. Il y a eu, au mois de mars, un député qui a déposé une demande de destitution. Et puis surtout, de façon assez étonnante, aujourd'hui, la vice-présidente qui est élue sur un ticket différent du président, la vice-présidente Lénine Rebrodo, qui est d'un autre parti, qui est du parti libéral, a déclaré que la guerre sans merci menée par le président contre la drogue avait détruit la confiance du peuple philippin dans la police et dans les institutions, et elle a dénoncé donc ces exécutions sommaires. Donc là, on a également un pôle de résistance. Donc si vous voulez, l'ensemble, l'amalgame, l'addition de ces résistances pourrait, à la faveur d'un excès supplémentaire ou d'une erreur, mener véritablement les Philippins dans la rue, comme ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises dans leur histoire.
Et le monde des affaires, ou en tout cas les responsables de l'économie privée?
Alors, le monde des affaires est évidemment très anxieux. Vous savez, il y a aux Philippines une élite politico-économique qui est très impliquée dans le fonctionnement de l'État et des institutions, et qui aujourd'hui résiste parce que les réformes économiques nécessaires ne sont évidemment pas menées, tant le combat contre la criminalité devient obsessionnel chez le président.
Voilà, merci de cet éclairage. On aura le temps et l'Asie à revenir. Ce qui frappe, c'est la fragilité de la situation. On a l'impression qu'on est à la merci de beaucoup d'aléas, en tout cas aux Philippines. FranceCulture.fr, Sophie Boisseau-Durocher, pour vous réécouter. Pour vous télécharger, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Et lundi, il sera question des Balkans occidentaux, Serbie, Kosovo, Albanie, un triangle d'intérêts conflictuels. Ce sera avec Catherine Lutard, chercheuse en sociologie du droit à l'Université de Strasbourg. Il est 6h55 sur France Culture.